RFI, grand reportage.
Stéphanie Scock.
Dans certains cas, il faut savoir désobéir.
Berkeley est la ville peace and love par excellence, mais nous représentons la majorité des Américains en disant que notre administration se conduit en Irak en véritable criminel de guerre. Ici à Berkeley, le conseil municipal a voté plusieurs motions en faveur de la paix. Le reste des États-Unis pense comme nous. En fait, nous sommes la conscience de notre nation.
Le mois dernier à Berkeley, plusieurs centaines de personnes ont défilé contre la guerre en Irak. Cette manifestante est une habituée des rendez-vous pacifistes. Il y a 40 ans, elle exprimait déjà son dégoût de la guerre. C'était en 1968. Elle était alors étudiante sur le campus californien et les Marines s'étaient déployés au Vietnam. 40 ans séparent ces deux conflits, mais les arguments des opposants à la guerre restent les mêmes. Bienvenue à Berkeley, le fief alternatif des États-Unis par excellence, le berceau de l'écologie, des hippies et de la contestation étudiante. Quand on évoque Berkeley et les 60s, on pense immédiatement à l'ambiance sex, drugs and rock'n'roll. Attention tout de même aux clichés, comme l'explique John Searle, ancien leader étudiant, aujourd'hui professeur de philosophie à l'université de Berkeley.
La ville de San Francisco et toute la baie qui l'entoure est plus gauchiste, plus avant-gardiste que le reste des États-Unis. C'est ici que sont nés les mouvements pour les droits des homosexuels et pour la défense des minorités, par exemple. En revanche, il y a beaucoup de préjugés en France, comme dans le reste des États-Unis d'ailleurs, concernant la vie à Berkeley. Dans les années 60, ce n'était pas le chaos et le paradis des drogues. Bien au contraire, être étudiant à Berkeley, cela demande une grande discipline intellectuelle. Je me rappelle toujours mon arrivée à Paris en mai 68 en tant qu'étudiant de Berkeley. J'étais traité comme un véritable héros capable de mener la révolution. C'était très agréable, mais ce n'était pas le cas.
Il y a 40 ans de cela, un certain Ronald Reagan, alors gouverneur de la Californie, déployait l'armée pour nettoyer le campus de Berkeley. Face aux canons, les troupes du Flower Power exigeaient le pouvoir. La République populaire de Berkeley, comme on l'appelait à l'époque, était le théâtre de manifestations quotidiennes. Une agitation sociale qui a en fait duré près de 10 ans, de 1964 avec le mouvement pour la liberté de parole jusqu'au début des années 70 avec les dernières manifestations contre la guerre au Vietnam. Pourtant, en 1964, Berkeley était loin d'être un repère de gauchistes, comme l'explique Gary Handman, historien.
Il faut réaliser qu'au début des années 60, Berkeley était comme le reste de l'Amérique. C'était une période plongée dans le conservatisme. Le conformisme était de mise et les étudiants ne faisaient pas de vagues, encore moins de politique. Et puis progressivement, on a commencé à parler des droits civiques, des discriminations contre les Noirs. Ici, sur le campus de Berkeley, quelques étudiants ont commencé à se mobiliser. Ils sont partis dans les États du Sud pour aider les Noirs à s'inscrire sur les listes électorales. Ces étudiants n'étaient pas des hippies. Ils avaient une forte conscience politique, mais rien à voir avec des anarchistes. Leur objectif, c'était de rester dans le cadre politique pour mieux le changer. C'était vraiment le début du mouvement Free Speech, pour la liberté de parole.
Le FSM, Mouvement pour la Liberté de Parole, marque le début de l'agitation sur le campus californien. Car avant 1964, toute activité politique était interdite au sein de la faculté. Richard Abrams, témoin et acteur de ces événements.
Ça a vraiment commencé au cours de l'été 64. Un groupe d'étudiants républicains a tenté d'installer un stand sur le campus pour défendre la campagne de Barry Goldwater. Ce type d'activité était interdite par le règlement de la faculté et c'est là que la confrontation a vraiment débuté. Les autorités ont rappelé que la distribution de tracts politiques devait se faire à l'extérieur du campus sur Bancroft Avenue. Et puis, ça a fait boule de neige. Les étudiants démocrates de la SDS, Students for Democratic Society, se sont mêlés à l'histoire. Ils avaient compris qu'un mouvement de grande ampleur pouvait naître à Berkeley. Alors, ils ont commencé à provoquer l'administration de la fac.
Le 1er
octobre 1964, un étudiant est arrêté pour avoir distribué les tracts. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. 9000 étudiants se regroupent autour du véhicule de police venu chercher leurs camarades. La voiture restera bloquée pendant plus d'une journée. C'est l'un des plus longs sit-ins dans l'histoire de l'université. Ce jour-là, émerge un leader, Mario Savio, le Cohn-Bendit californien. Gary Unman revient sur cet épisode clé.
Face à cette foule, la voiture de police ne pouvait plus du tout bouger. C'est alors que Mario Savio, un étudiant encore inconnu, a calmement et respectueusement enlevé ses chaussures et il est monté sur le toit de la voiture. Quelqu'un lui a passé un micro et il a commencé à parler. Ensuite, d'autres étudiants se sont succédés sur cette tribune improvisée. Ça a duré en tout 36 heures et tout le monde a pu donner son avis. C'était plus un mouvement intellectuel que politique.
À l'automne 1964, les étudiants de Berkeley n'ont pas encore les cheveux longs et les chemises à fleurs. Mario Savio porte la cravate et il n'a pas l'intention de provoquer la police. Parmi les étudiants présents ce jour-là, Leslie Martin.
On ne voulait rien détruire. Alors, le jour où Mario Savio est monté sur la voiture, il a enlevé ses chaussures pour ne pas détruire la voiture. On ne voulait rien détruire. Et voilà un autre geste tout à fait typique. Il y avait au moins 9 000 étudiants qui ont entouré la voiture. On s'est assis par terre, mais on a fait la quête. On a passé un petit panier pour avoir de l'argent pour payer les dommages.
Après la victoire du mouvement pour la liberté de parole, les étudiants de Berkeley se tournent immédiatement vers une autre cause, la guerre au Vietnam. Dès 1965, ils manifestent dans la ville voisine d'Oakland, devant le siège de recrutement de l'armée. Et pour la première fois, des affrontements éclatent avec la police. Les enfants sages de Berkeley ont changé de stratégie. Gary Unman.
Now, as the war progressed, student protests, obviously got...
Avec la guerre au Vietnam, le mouvement étudiant s'est durci. Il est devenu plus violent et les forces de l'ordre ont également changé de méthode. C'est en 1968 et 1969 que le monde a vraiment vu ce qui se passait à Berkeley. Les étudiants étaient en grève et des violences ont éclaté avec la police. Pour la première fois, on a vu des jets de pierre et de cocktails Molotov sur Telegraph Avenue, à deux pas de la fac. Les affrontements ont fait un mort et un blessé grave. Personnellement, je n'étais pas à Berkeley à cette époque, mais je pense que les débordements n'étaient pas le fait des étudiants, mais plutôt d'organisations extérieures à la fac, qui voulaient absolument jeter des pierres sur la police.
Involvement of outside organizers and others who just like to throw rocks, I think, at some point.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines.
À l'automne 1966, les étudiants chantent Yellow Submarine des Beatles et les hippies poussent les portes du campus. Aucune idée n'est trop folle et la notion de norme est systématiquement remise en question. Richard Abrams.
Les revendications ont évolué. Cette fois-ci, ce n'était plus seulement politique, ça allait bien plus loin. L'ensemble des valeurs traditionnelles était remis en question. C'était la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Un étudiant pouvait arriver tout nu sur le campus et dire que c'était son droit. Le type était tout de suite arrêté, mais l'affaire était débattue en public par les étudiants. C'était vraiment une bataille contre les conventions sociales de tous ordres.
D'abord, on portait le pantalon à pattes d'éléphant, mais avant, on n'avait pas le droit de porter de pantalon. Alors, à un certain moment, je m'en rappelle très bien, une étudiante, elle était arrivée en classe, elle portait un pantalon avec une tunique. Comme elle n'avait pas le droit de porter les pantalons, elle a enlevé le pantalon et elle tunique, ça allait, c'était bien. On avait le droit de porter le tunique très court, mais... Enfin, c'était ridicule, tout à fait ridicule. mais on faisait aussi les t-shirts de couleur criarde, ça s'appelle tie-dye, décoloré. Alors les couleurs, les fleurs, les tresses, on portait des tresses, les fleurs dans les cheveux, bien sûr, voilà. Oh, tout le monde jouait des guitares, tout le monde. Moi, j'étais fanatique, moi, je jouais de la guitare, j'étais vraiment folk singer manqué, hein, alors ça. Mais on dit, si on réussit à se souvenir des années 60, on n'y était pas. Tu vois? C'est-à-dire, parce que quand même, à un certain moment, on a commencé à prendre les drogues, c'était, tout a changé. Alors, on dit que les années 60, c'était vraiment... Alors quoi, c'était, on s'amusait, on dansait, il y avait là des drogues et tout. Alors, ça c'est difficile à expliquer, mais si on se souvient des années, on n'y était pas vraiment, parce que on était un peu fous. Hein. On aurait dit, parfois, on aurait dit un cirque, parce que c'est beaucoup de couleurs, de musique, de fleurs, de... On dansait partout, hein. On dansait dans les rues, c'était vraiment charmant. The trouble.
Face à l'insouciance des hippies de Berkeley, un nouveau mouvement émerge dans les quartiers noirs de la cité voisine d'Oakland. Les Black Panthers se sont créés en 1966. Armes à l'épaule, ils déboulent sur le campus et dénoncent le ghetto de riches dans lequel vivent les étudiants blancs. Dans le même temps, un certain Martin Luther King galvanise les foules en dénonçant le racisme et la justice à deux vitesses. Le Dr. King prononce un discours historique à San Francisco contre la guerre au Vietnam. Dans la foule, venu l'écouter ce jour-là, se trouvait Wilson Reels.
Oh, there's no question that it did resonate greatly throughout the Bay Area.
Son discours a eu un écho immense dans la baie de San Francisco. Il faut dire que c'était le centre de la contestation contre la guerre. On parle des étudiants de Berkeley, mais il ne faut pas oublier non plus les Black Panthers qui défendaient l'idée de justice sociale. Vous savez, à cette époque, les tribunaux étaient sans pitié pour les Noirs et la grande majorité d'entre eux étaient pauvres.
Particularly the low-income areas.
What's the legacy?
Quel est l'héritage du Dr. King aujourd'hui?
Well, I think the legacy of Dr. King is.
Je pense que cet héritage est porté par quelqu'un comme Barack Obama. Le candidat démocrate à la présidentielle a d'ailleurs repris une expression du Dr. King: The past is not past. Le passé continue. Ce qu'Obama dit aujourd'hui est aussi important que ce que disait King à son époque. Il suffit de dire Irak au lieu de Vietnam et le discours de King pourrait très bien être d'actualité aujourd'hui.
Monsieur le Chairman, ladies and gentlemen, I need not pause to say how very delighted I am to be here tonight and how very delighted I am to see you expressing your concern. A time comes when silence is betrayal.
40 ans après l'assassinat de Martin Luther King, que reste-t-il de son héritage? À Oakland, le mois dernier, une petite dizaine de personnes s'est réunie pour lire et relire ses discours. Aucun jeune n'avait fait le déplacement, mis à part Shalene, une afro-américaine de 27 ans.
J'ai un bon boulot, j'ai fait des études dans une école réputée et je suis maintenant propriétaire d'une maison. Tout ça était impossible à l'époque de mes parents. Martin Luther King a été à l'origine du changement et de l'amélioration de vie des Noirs américains, il n'y a pas de doute là-dessus. Malheureusement, les jeunes de ma génération, ils ont oublié tout ça. Ils ne réalisent pas les sacrifices qu'ont fait nos ancêtres et nos grands-parents. La plupart des jeunes ont oublié. Finalement, l'héritage de Martin Luther King ne les intéresse pas.
Fini les grands défilés sur le campus de Berkeley. Aujourd'hui, les étudiants pensent d'abord à leur futur professionnel et aux dettes qu'ils doivent rembourser. Le mouvement des années 60 s'est éteint en 1973 avec la fin du service militaire obligatoire, puis l'arrêt de la guerre au Vietnam 2 ans plus tard. Mis à part quelques manifs contre l'apartheid dans les années 80, les étudiants californiens ne protestent plus, comme le regrette Jessica, 23 ans.
Seems as though people are more apathetic than they were in the 60s.
Les étudiants de Berkeley sont certainement plus apathiques que dans les années 60. Mais j'ai entendu un certain nombre de personnes comparer les années 2000 aux années 40 et 50. Alors qui sait, c'est peut-être le calme avant la tempête. Dans les années 60, il y avait de grands mouvements en faveur de la justice. On utilisait la loi pour obtenir gain de cause. Mais désormais, on revendique plutôt le droit à régler les problèmes dans le calme. Il ne faut surtout pas faire de vagues. L'important, c'est que tout le monde puisse s'entendre. Tout ça, c'est bien beau, mais le problème, c'est qu'on n'a plus le droit d'émettre un avis différent de celui des autres.
Peace is a good thing, is that it disallows people to dissent or to have a different opinion.
Aujourd'hui, la plupart des étudiants de Berkeley ne savent plus qui est Mario Savio, le leader historique du mouvement pour la liberté de parole, est mort en 1996. Et sur le campus, seul un café porte désormais son nom. Fini les immenses sit-ins et les longues confrontations avec la police. Pourtant, les étudiants sont de mieux en mieux informés et capables de se mobiliser pour défendre une multitude de causes, comme l'explique Esteban, étudiant en sciences politiques.
Il y a peut-être, c'est vrai, moins d'activistes, mais les étudiants sont plus politisés qu'avant. Ils se mobilisent, oui, autour d'une multitude de causes, même pour les plus anodines. Ça ne veut pas dire qu'ils manifestent forcément dans les rues, mais ils exercent tout de même une pression sur le gouvernement. Ça ressemble plus en fait à la défense des droits sociaux qu'à un mouvement social à proprement parler, mais c'est beaucoup plus large. Et puis grâce à Internet, aujourd'hui, tout le monde se parle. Ça, c'est quelque chose que nos parents ne faisaient pas. À l'époque, vous manifestiez en faveur d'une cause, mais vous ne saviez pas ce qui se passait ailleurs, dans d'autres villes. Aujourd'hui, tout va très vite. On est beaucoup plus informés et plein de choses se passent.
Sur le campus, quelques 68 arts vétérans des manifs contre la guerre au Vietnam tentent bien de rallumer la flamme, mais les nostalgiques des grands défilés ne trouvent pas vraiment d'écho. Le campus de Berkeley a retrouvé son calme, seul mouvement de protestation visible aujourd'hui, un groupe d'écologistes qui campe au sommet d'un arbre pour dénoncer l'arrachage prévu de plusieurs chênes verts au cœur de l'université.
Mais Paris, pavés ne bougent plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendite. Et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume. Mon pas d'oiseau força enchaîné à sa plume. Et piochant les passions d'un rossignol titan, capable d'assurer le sacre du printemps. Mais Paris, mais Paris. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon cri. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky. Je te prends Paris dans mes bras pleins de zèle. Sur ma poitrine, je presse tes pierreries. Je dépose l'aurore sur tes tuileries, comme rose sur le lit d'une demoiselle. Je survole à midi tes 6 millions de types. Ta vie à ras-le-bol me filera des tripes. J'avale des quartiers aux couleurs de pigeons. Intelligence blanche et grise religion.